Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Théo à la régie. Et bonsoir Nathalie, notre maître du temps et de l'histoire. Je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles recettes. Aujourd'hui, nous allons un petit peu encore voyager, plus ou moins, vous allez voir. On a préparé ça aux petits oignons, comme dirait l'autre. Alors, nous avons donc en entrée, nous allons faire des muffins au chorizo et citron. Pour cela, il vous faudra 50 g de farine, sachet de levure. Alors, on ne l'a pas précisé, c'est de la levure chimique. Une cuillère à soupe d'huile, 135 g de fromage râpé, 15 centilitres de lait. Un demi chorizo fort. Alors moi perso, le fort, je suis pas très fan. Donc si vous avez un doux, c'est très très bien. Mais comme on a mis fort, ben il sera fort. Deux œufs, 120 g de bûche de chèvre coupée en petits morceaux. Pour les ustensiles, on va avoir besoin d'un saladier, d'un fouet, d'une cuillère en bois, d'un couteau et d'un, voire deux moules de muffins. C'est mieux d'en prévoir deux parce que si vous en avez fait trop de pâtes, vous allez dans le jus. Ou alors si vous avez des, ce qu'on appelle des cassolettes, ce sont des petites moules en papier, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc ça vous pouvez utiliser ou les moules à muffins ou des petites cassolettes. C'est des... comment c'est des, vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces, je crois. Oui. Voilà, et puis donc c'est en papier ou de couleur ou blanche.
Il en existe en silicone aussi.
Alors, oui, oui. Là, pour le fait, quand c'est du papier, c'est bien parce que tu peux en mettre autant que tu veux sur une plaque.
Oui.
Voilà, alors que bon, le silicone, alors moi j'utilise beaucoup le silicone, hein, ça c'est
certain. Non mais indépendant, c'est ça que je voulais dire.
Ouais, ouais. Mais quand c'est indépendant et que c'est trop petit, ça merdouille. Hein. Enfin franchement, entre nous, hein. Voilà, moi je préfère en plaque, plutôt en plaque, en muffin oui, en oui. plaque ou en mini moule en plaque, que individuel, parce qu'individuel c'est une galère, ça colle, ça, enfin bon, c'est... Moi, je trouve que c'est pas bon, c'est pas génial. Voilà, donc on va continuer. Donc, on va, donc pour le plat, on va faire donc, du porc au caramel. Pour cela, il vous faudra 2 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe de sucre, 800 g de poitrine de porc coupée en dés de 4 cm. Et puis, il nous faudra aussi 3 cuillères à soupe de sauce de soja, une pincée de 4 épices, 4 œufs et 600 g de riz par personne. Donc, tout dépend de combien vous êtes. Et pour les ustensiles, il nous faudra 2 casseroles, un faitout, une cuillère en bois et un couteau. Ensuite, on a trouvé que, ben, comme les cerises sont sur les étalages des marchés, ben, le clafoutis aux cerises était le mieux, était sympa à faire. Donc pour ça, vous aurez besoin de 100 g de farine, 100 g de sucre roux, 25 cl de lait, 45 g de beurre, une pincée de sel, une cuillère à café d'extrait de vanille, une cuillère à un sachet de sucre vanillé, 600 g de cerises bien mûres, dénoyautées, un œuf et 2 jaunes d'œufs. Pour les ustensiles, il vous faudra un saladier, un fouet, une cuillère en bois, un couteau, c'est mieux, et un moule à tarte. Voilà pour les ustensiles et la recette. Et nous allons commencer par le porc au caramel. Alors, on va découper ce porc donc cette poitrine, hein, c'est de la poitrine de porc, vous allez voir, parce que moi je trouve que c'est un peu meilleur et c'est plus tendre et moins sec. Donc, et c'est comme ça que ça se fait. Donc, vous le coupez, si ce n'est pas déjà fait, environ en carré de 4 sur 4. Hein, donc, bon, je vais, prenez pas votre centimètre pour le faire, ça sert à rien. Et puis, vous allez hacher deux gousses d'ail. Donc, je vous rappelle comment on les hache. Alors, ou vous êtes des un petit peu feignants, comme moi je le suis parfois, ben, on met ça dans le mixeur, les deux gousses d'ail, et puis terminé. Ou alors, on l'écrase contre le plat du couteau ou contre un verre, avec un verre, un gros verre, et c'est plus facile à émincer et à hacher. Voilà, donc ça, c'est l'astuce que je répète souvent, mais je trouve qu'elle est pas mal. On va faire revenir la poitrine de porc avec l'ail. Et on n'a pas besoin de mettre d'huile pour la simple raison, c'est que le lard va faire le gras. Donc on va faire revenir donc à feu doux pendant 10 minutes le porc et l'ail. Nathalie,
oui.
Tu nous mets 10 minutes, donc vous remuerez de temps en temps pour éviter que ça accroche, sauf si vous avez une téfale. Alors, même si vous avez une téfale, je peux vous garantir que ça risque d'accrocher. Donc, de temps en temps, faut remuer. Et puis, pendant ce temps-là, peut-être une petite pause, monsieur Théo. Une pause s'impose, voilà. Ben, on se retrouve tout à l'heure.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, donc bonjour et rebonsoir à ceux qui nous rejoignent. Et nous étions en train de cuisiner le porc au caramel, donc qui n'est pas encore caramélisé. Il est parti depuis 2-3 minutes juste avant la pause. Donc on remue le porc et l'ail. Et puis pendant que ça cuit gentiment, Nathalie, je pense que tu as quelque chose justement sur ce porc au caramel.
Oui. Alors le porc au caramel, dans l'esprit des Occidentaux, il rime souvent avec restaurant chinois, on le sait tous. En réalité, c'est un plat consommé dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, donc au Vietnam en particulier. Le porc au caramel appelé Tit Co Tu, Tutkoto, pardon, j'essaie de le faire avec l'accent, mais c'est bon, c'est pas bon. C'est un pilier de l'alimentation, au moins aussi populaire que le pho, qui est une soupe à la viande, et il se déguste tout au long de l'année. Alors, lors de votre voyage au Vietnam, vous aurez certainement envie de goûter à la cuisine locale. Donc, vous vous dirigerez vers le pho, donc cette soupe à la viande, typiquement vietnamienne, et célèbre bien au-delà de ses frontières. Et vous aurez tout à fait raison. Mais pour que votre découverte culinaire soit complète, il faudra essayer un autre plat typique de la cuisine vietnamienne. Vietnamienne, qui est le porc au caramel, donc, que tu nous présentes ce soir, Anne, qui est donc appelé tikoto. Mmh. Hein. C'est une sorte de ragoût de viande. Il intègre généralement la poitrine ou l'échine de porc, des morceaux relativement gras, mais qui donnent toute sa saveur au plat. En outre, la particularité de la recette vietnamienne réside dans l'ajout d'œufs durs, de poule ou de caille. Et mariné aux côtés de la viande dans la sauce au caramel, à l'eau de coco ou au gnoc mam, oui. Ils prennent alors cette teinte brunâtre caractéristique. Alors, les origines du porc au caramel, il existe un débat sur l'origine profonde de ce plat. Vient-il du Vietnam ou de Chine ? Alors, plusieurs hypothèses existent. Certains pensent que to signifie bateau, hein, qui est le plat serait une référence directe aux Chinois ayant rejoint le Vietnam par voie maritime et qu'il serait par conséquent issu de l'empire du milieu. Mais ce petit mot peut aussi vouloir dire peu salé en vietnamien. Donc en parallèle, des chercheurs se sont penchés sur la racine linguistique du nom de ce plat et auraient déduit qu'elle était 100% vietnamienne. Toujours est-il que le tikoto se déguste partout au Vietnam. Il intègre d'ailleurs les caractéristiques de tout le territoire. Sa saveur sucrée rappelle incontestablement le sud, tandis que la durée de la cuisson souligne son origine nordique.
Ben écoute, t'as vu, et bravo Nathalie pour ces informations. Et dans notre recette, on va ajouter les œufs durs.
Ouais.
Voilà, et donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et qu'on pense que c'est chinois alors que c'est une recette vietnamienne.
Voilà. C'est vrai.
Donc quand je vous disais qu'on allait voyager aujourd'hui, on voyage. Théo, peut-être quelque chose à nous transmettre ? Non, du tout ? Bon, tu me fais signe ? Tu me fais des coucous comme ça ? Voilà, c'est pour vous dire qu'on est vraiment en direct. Où en est-on au niveau de notre port ?
Nous en sommes à presque 7 minutes.
7 minutes. Donc, on pense à continuer à le remuer. Là, je pense que vu la quantité, on va pas attendre les 10 minutes. Hein. Vous regardez un petit peu si il a bien bruni. Je pense que 7 minutes, ça suffit. On va le retirer un petit peu du feu. On va y rajouter la poudre de 4 épices. Moi, j'ai mis une pincée. Moi, je peux vous assurer que si vous en rajoutez 2-3 pincées de plus, ça ne sera pas moins bon. Bien au contraire, hein, la poudre de 4 épices, on la met en général quand on fait des pâtés. Entre autres.
Ouais.
Voilà. Et là, dans cette recette, ces 4 épices apparaissent. Donc, on rajoute quelques pincées de 4 épices. On va rajouter 4 cuillères à soupe de sauce de soja. Alors, qu'elle soit sucrée ou pas sucrée, peu importe, de toute manière, moi je la fais avec du sucré parce que j'aime bien quand ça caramélise et que c'est bien sucré. Maintenant, si vous. La non sucrée marche bien aussi. Voilà, ça c'est une question de goût, on va dire. Alors, on va mélanger donc avec une cuillère en bois et on va y rajouter notre 3 cuillères à soupe de sucre ainsi que un quart de verre d'eau. Voilà, et on va faire caraméliser. Donc je vous rappelle que faut vraiment que ça soit peu en eau pour la simple raison c'est qu'on cherche à caraméliser. Et là, on va laisser pendant 10 minutes. Vous allez voir que la sauce de soja est déjà colorée, donc vous verrez pas forcément la couleur se faire, mais à l'odeur, vous allez sentir que le caramel se fait. Et quand ça va buller et que vous allez avoir votre viande qui va être entièrement enrobée de ce sucre, de cette sauce sucrée, ce caramel, eh bien là, il faudra qu'on arrête. Mais on est parti pour 10 minutes, donc déjà bien entamé. Voilà, donc faudra faire attention, peut-être que par rapport au feu que vous avez, même si c'est à feu moyen, ben ça sera plutôt 7 minutes, hein. Tout dépend de l'eau que vous avez mis. Si vous en mettez trop, ça va mettre plus de temps. Si vous en mettez moins, ça mettra beaucoup moins de temps. Voilà, hein, on cherche à faire du caramel et pas du sirop. Donc, et si jamais vous en avez pas mis assez et que vous voyez que ça accroche un peu, ben vous rajoutez un petit peu d'eau froide. Pendant ce temps-là, nous allons faire des œufs. Alors pour ça, avant il faut cuire le riz. Donc on va prendre une casserole et on met de l'eau froide dedans. Alors certains, moi je sais que chez les Chinois ou les Japonais ou les Vietnamiens, on rince le riz. Moi je le rince. Voilà, je trouve qu'après il a un meilleur goût quand on le rince. Donc vous le rincez. Je vous rappelle que c'est 60 grammes par personne. Et puis pour la cuisson, bah, vous regardez sur les paquets parce que maintenant, comme on a différents riz et différents modes de cuisson, mais on démarre toujours un riz avec de l'eau froide. Vous mettez votre riz dans l'eau froide et après, une fois que ça a commencé à faire une ébullition, on va dire, là, c'est à partir de ce moment-là que l'on va compter les minutes de cuisson. On va prendre une autre casserole. Mais avant ça, Théo me dit que j'ai le droit à une autre page de pub. Donc on y va, Théo.
Vous cherchez une idée de sortie originale en famille? Parc Babyland à Miland, 34 attractions. La Grande Roue, le Voltigeur, la Montée Fantastique, le Slalom, la Bûche Dansante, le Pteranodon, la Coccinelle Géante, la Rivière Canadienne. Petits et grands pourront faire le plein de sensations au Parc Babyland à Miland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeau.
Parcbabyland.fr.
Le royaume des enfants et de la famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
Depuis tout petit, j'y crois, je gardais l'appui des rêves dans le regard. J'avais que la musique pour écrire l'histoire. C'est l'histoire de ma vie, vive la vida. J'fais le vide ce soir, j'oublie tous mes soucis, demain ça ira. Reflet d'éternité entre deux miroirs, plongé dans le paraître, noyé dans sa voix. J'm'isole, j'm'évade, un bateau à la mer, j'ai sorti les voiles. J'me perds dans le ciel, j'ai visé la lune pour toucher les étoiles. Des fois, j'voudrais pouvoir refaire le monde et changer l'histoire. Oui, ma liberté dans ce monde de galère, mais pas dans l'immédiat. J'ai perdu trop d'amis, ça a changé ma vie. Les petits ont grandi, trop de monde hypocrite. J'm'en fous de leurs avis, j'marche seul dans la nuit. Cette lumière dans le noir, l'envie d'avoir envie. J'écoute pas les ondes, je m'isole et j'oublie. Les problèmes, les soucis, y'en a marre, c'est fini. Faut semblant de t'aider, j'déteste la jalousie. J'ai dit stop, car je veux vivre. Ça s'arrête comme un lion en cage haché dans l'arène. Et tout qui a changé, plus rien n'est pareil. Des fois, je m'en vais, je me regarde dans le miroir, seul face à moi-même. J'ai mis ce répondeur, personne qui rappelle. Envie de me concentrer sur ce qui vaut la peine. Je m'en fous que leur plaire. Si je fais de la musique, c'est pour me rendre fier. J'en ai laissé beaucoup le long du trajet. Le
bonheur avant tout, avant le paraître. La conscience avant le cœur, l'humain avant l'être. Vivre ou survivre sans la haine, être vrai et faire le mieux. Être heureux, pas malheureux, sur cette terre la cage. Je m'isole, je m'évade, d'un bateau à la mer j'ai senti les voiles. Peu peur, dans le ciel, j'ai visé la lune pour toucher les étoiles. Personne ne vous oublie, à jamais dans le cœur cette flamme qui vit. Un espoir, un sourire dans ce monde de folie. Un instinct de survie, l'essentiel à famille. Des moments, des fous rires, le bonheur entre amis. Je vous raconte en musique, quelle histoire de ma vie.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Foodanne.
Eh bien, nous revoici après cette courte page musicale. Donc, on a mis le riz à cuire. Et puis, juste avant, j'étais en train de vous dire de mettre une autre casserole, donc avec de l'eau froide. Et on va cuire les 4 œufs durs. Donc, on va porter à ébullition l'eau. Et on mettra le minuteur à 9 minutes. Je vous rappelle que les œufs durs, c'est 9 minutes. C'est la règle des 3-6-9. Donc, je ne sais pas si jamais vous ne le saviez pas. Peut-être que c'est une information que je vais vous dire. Donc, en fin de compte, la règle pour cuire les œufs, c'est 3-6-9. Donc, 3 pour les œufs à la coque, 6 pour les œufs mollets. Et 9 pour les œufs durs. Voilà, donc c'est facile à se rappeler. C'est une règle qu'on utilise très souvent en cuisine. Bien, alors je pense que là, notre porc, il est bien.
Il est à 7 minutes.
Il est à 7 minutes, donc on va rester à 7 minutes. Là, normalement, vous devriez avoir un caramel. Vous pouvez le goûter avec une petite cuillère, vous faites attention, ça peut être très très chaud. Et là, dans ces cas-là, vous allez toujours à feu doux rajouter donc de l'eau jusqu'en haut de la viande. Hein, vous n'allez pas au-delà. Et puis, on va laisser cuire 40 minutes. Voilà. Donc, ce qui va nous laisser juste le temps à la fin de l'émission. Ça sera parfait.
Ouais.
Ça sera parfait. Donc, pendant ces 40 minutes-là, on va poursuivre nos recettes avec celle du clafoutis aux cerises. Donc, si vous n'avez pas lavé, équeuté, dénoyauté vos cerises, faites-le maintenant. Donc, ça risque d'être un peu long.
Oui, c'est un peu long.
Donc, c'est pour ça qu'on avait marqué sur la recette de bien les équeuter et de les dénoyauter. Alors, je sais que certains disent « Ouais, mais les noyaux, c'est bien mieux quand ils sont dans le clafoutis. » Moi, perso, manger une tarte avec des noyaux à l'intérieur, ça ne m'éclate pas le palais.
Quand on tient à ses dents, vaut mieux éviter.
Voilà, c'est surtout ça quand on tient à ses dents. Lui-même, je trouve que c'est plus agréable.
Oui.
Donc, pour ça, pour les dénoyauter, si vous avez un dénoyauteur, c'est superbe. Sinon, vous les ouvrez de moitié au cœur et puis vous enlevez le noyau avec vos doigts. Moi, je fais ça avec mes doigts et ça va super bien et ça va vite. Bien. Donc, on va allumer déjà le four, thermostat 6, 7, c'est-à-dire à peu près 180 à 200 degrés. Et puis, dans un plat à tarte, on va mettre 45 grammes de beurre. Et on va enfourner ces 45 grammes dans le... Vous allez voir après pourquoi. Ça fait une économie de micro-ondes. Pendant ce temps, pendant que ça réchauffe au four et que ça fond au four, on va battre l'œuf et les deux jaunes d'œufs en omelette. Alors, les blancs en neige, je vous rappelle que vous pouvez les congeler et quand vous avez besoin de mettre une meringue, faire une meringue, vous les sortez et il faudra mettre autant en poids. Hein, si vous faites des meringues, je vous rappelle vite fait la recette, c'est le poids égal de blanc d'œuf égal au sucre semoule égal au sucre glace. Voilà. Donc en fin de compte, on met deux fois le poids de l'œuf, du blanc d'œuf.
Ouais, d'accord. Deux fois le poids de sucre de l'œuf.
Ouais, okay. Mais il y a une partie que c'est du sucre semoule, oui. Et une autre partie c'est du sucre glace. Voilà. Donc ça, c'est pour une parenthèse. Vous ajoutez donc dans cette omelette œuf et deux jaunes, vous ajoutez une pincée de sel ainsi que 100 grammes de sucre. Et là, vous allez mélanger avec le fouet. Donc, force et courage. Hein, ça ne va pas durer éternellement hein, non plus. C'est juste pour faire blanchir. Hein, donc, vous souvenez, ça va devenir un petit peu jaune pâle et faire mousser légèrement. Plus ça sera moussé, mieux ce sera. Plus ça sera jaune clair, meilleur sera. Voilà, on va... Alors, pour ceux qui sont un peu feignants et qui ont un mixeur, vous pouvez mettre justement cette préparation dans votre mixeur. Mais il faudra l'enlever au moment de mettre les cerises parce que sinon, ça fera de la bouillabaisse et ce n'est pas terrible. Donc dans ce mélange, on va rajouter, donc on a blanchi les jaunes et le sucre avec l'œuf. On y ajoute une cuillère à café d'extrait de vanille. Si vous avez de la vanille en poudre, ça marche aussi. Et puis on va mélanger donc toujours avec le fouet et on va rajouter les 100 grammes de farine. Alors ça, vous y allez tout doucement de façon à pas faire de grumeaux et vous fouettez au maximum de façon à ne plus avoir de grumeaux du tout. Donc voilà, vous allez obtenir un mélange une préparation liquide un petit peu épaisse. Quand même, il faut qu'elle soit épaisse. Et puis, par contre, il faudra qu'elle soit onctueuse. Donc, d'où l'intérêt de fouetter assez violemment, on va dire, et assez durablement. Le coup du robot, ça peut être sympa. Voilà, donc vous sortez là votre beurre, il est fondu. Vous sortez le beurre fondu du four et vous allez l'ajouter à la préparation que l'on a fait. Donc comme ça vous n'avez pas besoin de le faire fondre et s'il a crépité c'est encore mieux, il va donner un petit coup de fumée, ça va être encore meilleur. Et puis vous allez y rajouter 125 grammes de lait,
25 centilitres,
j'ai dit quoi,
125 grammes,
oui, voilà, j'ai pété un câble encore une fois. 25 grammes, merci Nathalie. 25 centilitres de lait tout en remuant. Alors vous remuez tout doucement au fouet jusqu'à incorporation du lait et du beurre. Une fois que ce mélange est fait, vous allez ajouter à cette préparation les cerises. Et là, vous n'utilisez plus le fouet ni le robot. Vous allez le faire avec une cuillère en bois. Donc, tout doucement. L'idée, c'est que toutes vos cerises doivent être enrobées de la préparation qu'on a faite. Voilà, et puis donc une fois que vos cerises sont bien mélangées et bien enrobées de la préparation que vous venez de faire, et ben vous les mettez dans le plat à tarte, tout simplement, vous versez l'entièrement. Mais avant ça, il vous reste un petit peu de beurre dans le moule. Surtout, vous ne l'enlevez pas, mais par contre, avec un papier essuie-tout, vous allez l'étaler pour le reste, pour graisser un petit peu ce plat. Si vous avez un vieux plat un petit peu rayé, vous pouvez y rajouter un une petite pincée de farine de façon à faire que ça se décolle bien au démoulage. Donc ça, c'est à vous de voir et par rapport à votre plat. Vous pouvez bien évidemment utiliser les moules à tarte en silicone. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc vous allez mettre, donc une fois que vous avez essuyé votre beurre avec un essuie-tout, vous allez mettre cette fois-ci la préparation avec les cerises. Et puis vous allez mettre, une fois que bien tout est bien étalé correctement en place, vous allez rajouter quelques noisettes de beurre par-dessus et vous allez enfourner dans un four, donc je vous rappelle, à 180-200 degrés pendant 30 minutes. Alors tout dépend du four, pareil, vous regarderez, il faut que ce soit bien doré ça sera cuit à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Bon, Nathalie, tu nous as mis le compteur pour 30 minutes.
30 minutes, ok.
Hein, parce que là, pour le moment, on n'a rien d'autre que ces 30 minutes-là.
Si, on a le porc au caramel qui mijote pendant 40 minutes.
Exact. Je pense que pendant qu'on est en train de parler, vos œufs sont cuits. 9 minutes, ça passe rapidement. Donc, vous les plongez dans l'eau froide pour, en fin de compte, arrêter la cuisson. Et on va pouvoir les écailler. Donc, les plonger dans l'eau froide, ça arrête la cuisson déjà d'une part. Et d'autre part, ça évite de vous brûler au moment de les écailler. Je pense que votre riz, il est aussi cuit. Donc, vous le passez sous l'eau froide pour arrêter la cuisson. Vous le goûtez bien avant. Hein, faut pas qu'il soit croquant, mais juste al dente. Hein, donc, un petit peu claquant, on va dire, et vous allez l'égoutter. Et une fois que vous allez l'avez bien égoutté, vous allez le mettre dans un plat qui ira au micro-ondes, qu'on réchauffera au moment du service, tout simplement. Voilà. Nathalie, peut-être une histoire sur le clafoutis.
Oui, bien sûr. Alors, l'histoire du clafoutis, qui est un gâteau traditionnellement composé donc de cerises coupées en petits morceaux, c'est-à-dire entièrement recouvert d'un appareil à flan. Et le nom de clafoutis est attesté avec certitude à partir de 1856. Plusieurs étymologies convergentes sont proposées. Donc le nom de clafoutis de l'occitan clafoutis proviendrait du verbe clafir ou clofir qui signifie remplir. Le nom de clafoutis pourrait aussi provenir des croisements du verbe de l'ancien français clofir du latin clavo figere. Je ne sais pas si on dit comme ça, fixé avec un clou, ou d'un dérivé en aise, foutre, mettre, ficher. Le clafoutis est aussi appelé en français milliard ou millard dans le Limousin, région dont ce dessert est originaire, et en Auvergne. Les ingrédients principaux sont, outre les cerises, le sucre, la farine, le lait et les œufs. Il y a certaines variantes qui incluent du beurre ou de la crème. Traditionnellement, les cerises ne sont pas dénoyautées, on en parlait tout à l'heure, afin que le jus des cerises ne se mélange pas à la pâte. La cerise de Montmorency est spécialement réputée pour les clafoutis, réalisée avec des fruits autres que la cerise, tels que la pomme, la poire, l'abricot ou la prune. Il porte alors le nom de flognard. Le clafoutis au bigarreau marmotte non dénoyauté est une spécialité de Paray-le-Monial, appelée cacou. Et le phare breton est un dessert proche du clafoutis, réalisé, lui, avec des pruneaux.
Bien. Et alors, je reviens sur les ingrédients qu'on peut mettre en plus. Hein. Là, en ce moment, ça va être la rhubarbe.
Oui.
Donc, on va pouvoir aussi mettre de la rhubarbe. Vous pouvez faire le clafoutis, vous pouvez le faire avec tous les fruits que l'on veut. Vraiment, c'est un. Alors après, ça ne s'appelle plus clafoutis. Hein. Vous voyez que les bigarreaux, ce seront des cerises, hein, les bigarreaux. Oui. Hein. C'est appelé cacou. Voilà.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, on fait un clafoutis aux cerises avec des cerises dénoyautées.
Traditionnel.
Voilà. écoutez, je pense qu'on va se faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.
Comme les ennuis se répètent, on parle toujours en peut-être, demain sera. s'embrouille dans nos têtes. On supplie que ça s'arrête. Tout sauf le bonheur se jette. C'est de la compris, c'est de la appris. L'horloge tourne un peu trop vite. Le monde tourne un peu trop vite. Que dans tes rêves. Oh. C'est le rythme accélère encore. C'est ça assombrir le décor. Que ça t'achève. Oh. Faisons comme si l'on était. Toujours en état, l'orage ne peut rien changer. C'est trop pas.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Foodan.
Eh bien, nous revoici. Alors, on va un petit peu résumer un petit peu tout ce qu'on est en train de préparer pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, comme ça, ça nous laisse un petit peu de temps pour les autres préparations. Notre porc au caramel est en train de cuire, donc à feu moyen. On le remue un petit peu. On n'oublie pas, même s'il a de l'eau, on n'oublie pas de le remuer. Normalement, l'eau devrait s'évaporer petit à petit, hein, donc c'est normal. Donc, on va avoir une sauce un petit peu plus épaisse. Notre clafoutis, lui, est en train de cuire, donc on vérifie la coloration. Normalement, on devrait être pas trop mal. Et puis, ben, il nous reste à faire les muffins au chorizo et aux chèvres. Alors, pour cela, on va couper en petits morceaux le demi-chorizo fort ou doux, hein, comme vous l'avez choisi. En petits morceaux, vous n'oubliez pas d'enlever la peau. On a tendance à un petit peu oublier d'enlever la peau et ça, quand on le mange, c'est pas toujours très très agréable. Donc on enlève la peau, on le coupe en petits morceaux. Hein, donc on va faire pareil avec les 120 grammes de bûche de chèvre. On le coupe en tout petits morceaux. Alors petits morceaux, c'est à vous de juger, c'est par rapport à la taille de vos muffins. Dans un saladier, on va mélanger 150 g de farine, un sachet de levure et les deux œufs jusqu'à obtenir une pâte assez épaisse. Pour cela, vous allez prendre une Maryse, hein, c'est une raclette avec un manche en bois ou en plastique comme on veut. Et on va mélanger ou avec une cuillère en bois, ça marche aussi bien. Donc on mélange donc la farine, la levure chimique, les deux œufs, et puis on va y rajouter 2 cuillères à soupe d'huile et 15 centilitres de lait. Et puis, on terminera par le fromage râpé. Alors, ça aussi, vous pouvez le faire dans votre robot. Il n'y a pas de problème. Même avec le fromage râpé, vous pouvez tout mettre dans votre robot et vous allez mixer. Et vous aurez tout de suite une pâte très adaptée pour justement le muffin. Moi, j'aime bien le faire à la main parce que voilà, ça me prend peu de temps. Mais pour ceux qui n'ont pas trop le temps, vous pouvez mélanger les ingrédients dans un robot. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. J'ai une toux de fumeur. Hein. Excusez-moi, là, je suis désolé. J'ai les gros yeux de Théo qui me regarde parce que ça a résonné dans son casque. Je suis désolé depuis tout à l'heure, sinon je ne pouvais plus parler après, Théo.
Tu vas être puni.
Voilà, je sais. Je te promets, je vais arrêter de fumer. Je ne sais pas quand, mais je vais arrêter. Parce que c'est pas très très bon pour la santé.
Un jour, j'espère.
Oui, voilà. Merci Théo de me soutenir. Donc, on va verser notre préparation dans notre moule à muffins. Alors, si c'est des moules en silicone, vous n'avez pas besoin de beurrer ni de fariner. C'est bien. Si c'est dans des petites cassolettes, ben c'est formidable, vous n'avez pas besoin de beurrer ni de fariner. Si c'est dans un moule muffin en métal, là par contre vous êtes obligé de beurrer et de fariner. Donc pour éviter que ça accroche, parce que sinon je vous dis pas le désastre. Voilà, moi j'aime bien mes plaques à muffin, comme ça j'ai ma dose de muffin et ça me permet de tout faire en même temps. Alors, donc on va remplir avec une cuillère ces moules à muffins, une cuillère à soupe, la préparation. Donc vraiment, il faut que ce soit le fond, mais pas trop. Hein, faut pas non plus faire la moitié, puisque nos moules, on va les remplir aux trois quarts. Donc, on remplit d'abord d'une cuillère à soupe de préparation. Ensuite, on va mettre par-dessus le chorizo et le chèvre. Et on va recouvrir de la même pâte qu'on vient de mettre et jusqu'à aux trois quarts du moule. Vous faites attention, comme on a mis de la levure, ça gonfle. Donc à la cuisson, et on va l'enfourner à côté du clafoutis, et on va les enfourner et pendant 20 minutes. Donc ce qui vous laissera le temps de passer à table et de les manger tout chaud. Vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai en fin d'émission comment se déroule votre fin de cuisson de tout ce qu'on est en train de faire et puis la préparation de dernière minute. Voilà, ben, c'est parti pour 20 minutes, mais on sera déjà bien avancé au niveau de l'heure. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur l'origine des muffins ?
Oui. Alors, au sujet de l'origine du mot muffin, il y a deux versions qui s'opposent. Certains historiens pensent que le mot trouverait ses racines dans le luxueux mouflet, qui est un petit pain sucré français, tandis que d'autres voient dans le muff, un petit cake en provenance d'Allemagne, la véritable source étymologique du muffin. Quoi qu'il en soit, le lieu où la recette du muffin a été inventée... ne fais quant à lui pas d'objet de débat. Voilà, il a été inventé le mot muffin, donc il n'y a pas de débat là-dessus. C'est en effet au Pays de Galles, donc au XIe siècle, que le muffin a été élaboré pour ensuite s'exporter aux États-Unis. Il existe d'ailleurs plusieurs différences entre le muffin anglais et le muffin américain. Le muffin à l'anglaise, English muffin, n'est-ce pas mon accent, est très vite devenu une recette de gâteau typique au petit déjeuner pour les Anglais. S'apparentant à une crêpe, le muffin anglais est un gâteau à la fois épais et salé et réalisé avec une pâte levée. L'American muffin s'est vu quant à lui alourdi comparé à son cousin anglais pour devenir une sorte de mélange entre le cake et le pain. Il est aussi devenu au fil du temps de plus en plus sucré. Cette mutation s'est également accompagnée d'une modification de la manière de déguster le muffin. De plate typique du petit déjeuner, il est devenu un gâteau consommable à toute heure de la journée. Aussi, ces deux types de muffins sont les matrices historiques qui ont constitué l'immense variété de muffins que nous pouvons trouver aujourd'hui, notamment toutes les sortes de muffins au chocolat, le muffin aux pépites de chocolat, le muffin au chocolat blanc ou encore le muffin au chocolat coulant, noir, fondant, au lait ou, comme aujourd'hui, le muffin salé.
Et oui, aujourd'hui, le muffin salé.
Ouais.
Merci Nathalie d'avoir éclairé nos lanternes. Moi, je reviens sur donc, le muffin, l'origine hein, du muffin, c'est anglais, mais en pâte levée, donc oui. Avec de la levure de boulangère.
Oui.
Et le muffin américain est avec de la levure chimique.
Ouais.
Et on va retrouver ça, c'est un petit peu comme un cake en fin de compte, hein, le muffin. Alors, il va y avoir des variantes hein, au niveau des cakes, mais vous pouvez faire des muffins avec n'importe quoi. Enfin, vraiment, avec des petits légumes, avec des poivrons. On aurait pu rajouter quelques petits poivrons pour ouais. donner de la couleur. Hein, le poivron vert, un peu de couleur, ça ferait jaune, rouge et blanc. Ça fait un peu italien aussi, donc... Pourquoi pas? Voilà, donc éclatez-vous à faire des muffins de toutes sortes. Ce qui vous reste dans le frigo, s'il vous reste du jambon, s'il vous reste, pourquoi pas, de la mozza. Enfin voilà, éclatez-vous avec... Là, on va avoir de belles tomates. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, mes tomates, elles commencent à sortir leur nez. Donc, je vais commencer à faire des petites choses avec mes tomates. Donc là, pour le moment, elles sont vertes. Hein, mais elles vont pas tarder à rougir, donc ça va être sympa. Je vais vous préparer des recettes à base de tomates à tout va, on va dire. Voilà, bah, écoutez, là on n'est pas très loin de la fin de l'émission, mais il est temps pour vous quand même, de puisque tout est en place et en train de cuire, je pense qu'il est temps de pouvoir mettre une jolie table tous ensemble pour pouvoir déguster ensemble encore ces mets qu'on a préparés ce soir. Mais avant de nous quitter, j'ai quelques recommandations pour la finition de vos plats. Donc pour le porc, alors le porc, Nathalie, où on en est?
On est à presque 24 minutes, donc il reste encore 6 bonnes minutes.
6 bonnes minutes. Donc, alors, une petite astuce pour présenter votre porc quand il sera cuit. Votre riz, vous le faites bien réchauffer au micro-ondes. Vous allez trouver un grand plat qui peut contenir le riz, le porc et puis les œufs. Quand vous avez mis, alors genre un plat à légumes, moi j'utilise beaucoup de plats à légumes, ce sont des plats, ou un plat à gratin, voilà, un plat à gratin, ça peut être sympa aussi. Vous mettez votre riz dans le plat à gratin, vous le faites réchauffer au micro-ondes, quand il est tout chaud, vous faites comme un puits, vous creusez un puits, et à l'intérieur, quand votre porc sera cuit, vous mettez votre porc à l'intérieur de ce gros puits, et puis, au milieu, donc on va avoir le riz, le porc, et on va couper nos quatre œufs, on va les couper en deux et on va les mettre par-dessus le porc. Et on va rajouter quelques gouttes de sauce de soja, juste pour donner un petit peu de la couleur à ces œufs et donner un petit peu de vie à ce plat. Vous pouvez rajouter, si vous souhaitez, un petit peu de verdure, genre du persil, mais franchement c'est pas utile parce que vous avez assez d'épices comme ça dans votre plat. Voilà, donc pour la présentation du porc au caramel, je vous rappelle, on fait comme un puits, un nid, on niche le porc au caramel à l'intérieur, on coupe les œufs, donc les quatre œufs, on les coupe et on va mettre quelques gouttes. Alors amusez-vous à faire, par exemple, moi j'aime bien faire des coccinelles. Voilà,
mais des coccinelles, ouais, c'est-à-dire ouais.
Mais tu as l'œuf bombé.
Ouais.
Et tu mets quelques gouttes sur l'œuf de sauce soja.
Ah oui, d'accord.
Le blanc d'œuf il va l'absorber.
Ouais.
Ça va faire des taches comme les coccinelles.
D'accord.
Et après, moi, je mets des antennes au bout de mon œuf et ça fait comme une coccinelle. Voilà. Après, amusez-vous. Ça peut être une belle déco. C'est sympa à réaliser avec les enfants ou pas. Alors, pour le clafoutis, qui, lui, est dans combien de temps en amont?
Oui, alors je viens de me rendre compte qu'en fait, en plus, j'avais dit n'importe quoi. Pour le clafoutis, il reste 10 bonnes minutes. Et du coup, pour le porc, il en reste 15.
D'accord.
Presque. Ouais.
D'accord. Donc, ben, écoutez, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire cette, ces petites choses-là à la sortie. Donc, vous notez bien hein, la présentation du porc. Hein. Donc, le porc, on va le laisser cuire encore un petit peu. Le clafoutis, pareil. Mais dès qu'il sortira du four, vous le saupoudrez du sachet de sucre vanille. Donc, quand il sera encore chaud, donc ça va faire fondre et ça va faire des petits grains dessus, par-dessus votre clafoutis. Et vous servirez bah, tiède, voilà. Et quant aux muffins, vous pouvez les servir froids. Alors, comme on a fait une recette avec qui va vous donner une vingtaine de muffins, tout dépend du moule que vous allez avoir. Moi, oui. J'en fais une vingtaine.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Avec la quantité là,
oui.
J'en fais une...
ouais.
D'accord.
Alors, tout dépend du moule que vous avez. C'est toujours pareil.
Oui.
Voilà. Moi, comme j'ai des moules, elles voulaient... Vous pouvez les faire plus ou moins épais. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Alors, si vous les faites moins épais, attention à la cuisson.
Oui,
je vous rappelle quand même que la fin de cuisson, vous vérifiez bien, même 10 minutes avant la cuisson, vous plantez un couteau dans le cœur d'un des muffins. S'il ressort et qu'il est encore avec de la pâte, vous le remettez à cuire. S'il ressort et que si votre couteau ressort sec, c'est que le muffin est cuit. Ça peut aller très très vite, comme ça peut aller très lentement. Enfin, tout
dépend
de l'épaisseur.
Et puis des fours aussi.
Tout dépend de l'épaisseur et tout dépend du four. Moi, en 15 minutes, mes muffins, ils sont cuits. Voilà. Mmh. Donc, tout dépend. Et c'est pour ça que j'en fais 20. Parce que mes muffins, ils ne font pas forcément un gros gâteau.
D'accord.
Hein? Donc, c'est compliqué d'avoir des moules à muffins parce qu'il y en a tellement de sortes qu'on ne peut pas vous donner la mesure exacte. Voilà. Oui. Après, vous faites par rapport à ce que vous avez. N'allez pas acheter des choses. Voilà. C'est pour ça que le coût des cassolettes, ça peut être sympa aussi. Voilà,
oui.
Parce que bah, on n'a pas forcément des moules à muffins, ça prend de la place quand on n'a pas une grande maison ou un grand appartement. Voilà. Donc les muffins, si vous les mangez pas tous ce soir, donc on peut les manger chauds, on peut les manger froids, on peut les manger tièdes, comme on veut. Si jamais vous les avez pas finis ce soir, bah écoutez, vous pouvez les mettre dans une boîte en plastique, tout simplement. Vous attendez bien que ça refroidisse, par contre, avant de les mettre dans une boîte en plastique pour éviter la condensation. Et puis on servira ça. Moi, j'aime bien servir ça avec une petite salade de style roquette parce qu'elle est un petit peu pimentée, oui. Un petit peu acide. Et puis voilà, donc ça fait une belle petite entrée. Ben écoutez, voilà, moi je pense qu'on a encore vu quelques belles recettes. je sais qu'on
est en avance.
On est largement en avance. Quoi vous dire d'autre? Que la semaine prochaine, on vous prévoit des recettes de saison toujours. Et puis, ben voilà, je tente de vous souhaiter un bon appétit, une excellente...